Vous vous intéressez ce matin, Isabelle Duché, aux sociétés coopératives.
L'Union régionale des SCOP Occitanie-Pyrénées publie les chiffres clés de son bilan 2023. L'occasion de nous intéresser à ce type d'entreprise qui se développe dans notre région et fait la part belle à la personne humaine. Son président est notre invité, Rémi Roux. Bonjour.
Bonjour.
L'ancienne région Midi-Pyrénées comprend 349 sociétés coopératives, ce qui représente 4625 salariés et 464 millions d'euros de chiffre d'affaires. Comment ces entreprises ont-elles particulièrement résisté à la crise économique, notamment liée à l'inflation ?
Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que les SCOP en général, les SCOP et les SIC, hein, ce sont les sociétés coopératives d'intérêt collectif, elles sont plus résilientes que la moyenne des entreprises en France. Pourquoi ? Parce que comme on n'est pas basé uniquement sur le profit, on ne va pas prendre des décisions à court terme pour essayer de gagner plus d'argent plus vite. Et puis quand une SCOP a des résultats, elle met une grande partie de ses résultats en réserve. Et donc c'est mis de côté pour fortifier l'entreprise, la structure. Et du coup, ça prémunit quand il y a des coups durs. Au lieu d'avoir distribué à des actionnaires extérieurs, en fait, on a gardé cet argent et ça nous permet de tenir dans les mauvaises périodes.
Mmh. Et c'est-à-dire que les autres entreprises ne mettent pas de côté un petit matelas de sécurité ?
Alors, si, les réserves, la mise en réserve, c'est même légal, c'est obligatoire.
Bah oui.
Mais je veux dire, nous, dans une SCOP, on va mettre 50% en réserve. Dans une entreprise classique, je crois que le minimum, ça va être 15% ou quelque chose comme ça, quoi.
Donc, ouais. c'est la différence. Fait, c'est la sagesse un peu du bon père de famille dans la SCOP de mettre... Un peu de réserve de côté.
Voilà, c'est ça.
En cas de coup dur.
On va mettre des réserves de côté et puis on va essayer de pérenniser cet outil de travail que nous avons en commun entre salariés. Mmh. Et puis quand il y a un coup dur, tous les salariés, puisqu'ils sont copropriétaires de la SCOP, ben, tout le monde va se relever les manches. Parfois, il faut travailler un petit peu plus pour passer ce cap difficile. Ben, les gens vont décider de le faire. Ce n'est pas contraint par des financiers extérieurs.
Ouais. Nous allons parler justement des avantages et des inconvénients de la SCOP. Mais je voudrais qu'on parle d'abord de cette mission de l'URSCOP, qui est de convaincre les dirigeants d'entreprises qui vont prendre leur retraite, de la transmettre directement à leurs salariés. Évidemment, ça n'est pas gratuit. Ils vont la vendre. Et c'est vrai que nous parlions de cette difficulté avec Dominique Coste, qui est président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Aveyron. Il faisait récemment part à l'antenne de Radio Présence de sa préoccupation. Il nous disait 35% de nos chefs d'entreprise aveyronnais ont 55 ans ou plus. Et donc c'est vraiment une question qui se pose notamment en Aveyron, mais certainement pour d'autres départements de notre région. En quoi les sociétés coopératives peuvent répondre à cette difficulté, Rémi Roux ?
Eh bien, c'est une vraie possibilité de sortie pour un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise qui à un moment va devoir prendre sa retraite. Et on n'y pense pas assez parce que c'est pas tellement connu, les SCOP. Mais en fait, au lieu de vendre, qu'est-ce qui se passe ? Quand on a fini son entreprise, les enfants ne vont pas vouloir reprendre parce qu'ils font autre chose. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ? Ou on vend à un concurrent ? Où on vend à des investisseurs financiers. Et ces gens-là, en fait, ils sont intéressés par l'entreprise pour reprendre la richesse de l'entreprise. Parfois, quelques années après, l'entreprise, le site sur place, à la campagne, dans l'Aveyron, comme vous dites, va être fermé parce que l'entreprise a récupéré la clientèle, l'entreprise qui a racheté. Et puis, ça ne l'intéresse pas d'avoir ce site en plus. Et c'est catastrophique. Alors que, au lieu de vendre à un concurrent, qui sait quels sont les gens qui connaissent le mieux l'entreprise, c'est les gens qui travaillent depuis 10 ans, 20 ans. Et eux, ils vont, si on leur donne la possibilité eux-mêmes de racheter l'entreprise, eh ben, ils vont se battre pour continuer et ils savent le faire. Donc c'est une excellente solution pour pérenniser l'œuvre qui a été faite par ces créateurs d'entreprise il y a 20 ans, 30 ans. Il faut vraiment y penser. Même s'il n'y a pas... C'est vrai qu'un dirigeant qui a tenu toute l'entreprise à bout de bras pendant des années, il se dit « mais il n'y a personne dans la boîte qui peut prendre ma place ». Ok, mais comme vous partez à la retraite, on va recruter quelqu'un qui a ses capacités et qui va prendre place. Et c'est là que l'Union régionale des SCOP va aider ses porteurs de projets, va leur aider à trouver des financements auprès de banques, de bandes coopératives, de bandes éthiques évidemment, et puis aussi du mouvement coopératif, puisque nous dans les SCOP, on est le seul mouvement d'entreprise qui avons notre propre banque aussi, et qui peut aider comme ça des projets de reprise, de rachat, pour pouvoir pérenniser cette entreprise et en même temps faire grandir l'économie sociale et solidaire, cette économie où on travaille pour les salariés, puis pas juste pour le pognon.
Pas juste pour le profit. Alors vous dites que ça permet de pérenniser l'entreprise, ça permet aussi aussi de la maintenir sur le territoire. Et ça, c'est important à l'heure où on essaye de favoriser les relocalisations.
Bah, bien sûr. Vous savez, dans une SCOP, comme ce sont les salariés qui deviennent sociétaires, une personne, une voix, voter la délocalisation, c'est pas le genre de décision qui va être prise comme ça, à main levée, en disant « Ah bah oui, t'as raison, on va sacrifier nos emplois et puis on va faire fabriquer dans des pays moins chers. » Non, on le fait pas, justement. C'est un gage de pérennité de l'entreprise sur le secteur.
Rémi Roux, vous avez parlé de quelques avantages et de quelques points de fonctionnement de ces sociétés coopératives. J'aimerais bien qu'on y revienne. Vous avez parlé de une personne, une voix. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Alors, c'est le côté démocratique des coopératives, c'est-à-dire que dans une SCOP, tous les salariés sont appelés à devenir un jour sociétaires. Donc, c'est actionnaire, en fait, mais c'est le mot qu'on utilise dans les SCOP. Et donc, ils vont acheter des parts sociales qui restent au même prix. Hein. Il n'y a pas de spéculation dans les SCOP. Donc,
On ne peut pas avoir plusieurs parts, en fait.
Oui, mais ils vont acheter, par exemple, avec 2% de leur salaire. Tous les ans, ils vont acheter des parts à 20 euros et 2% de leur salaire est consacré à ça. Le jour où ils repartent avec cet argent. Ils récupèrent cet argent et puis voilà. Mais dès qu'ils deviennent sociétaires, ils ont une voix à l'Assemblée Générale. C'est une personne, une voix. C'est comme au vote en démocratie. Il n'y a pas une personne qui a 1000 voix. Non, c'est une personne, une voix. Et ça, ce sont pour les décisions importantes. Après, la SCOP, c'est une entreprise normale. Donc, il y a des chefs de service. On ne va pas réunir tout le monde chaque fois qu'il faut prendre la décision pour acheter un outil. Quand on fait un gros investissement de plusieurs millions d'euros pour construire un atelier, bien sûr que ça va être voté en Assemblée Générale, comme dans les boîtes classiques. Ce qui est voté en Assemblée Générale aussi, c'est la gouvernance et la finance. C'est-à-dire que la direction, elle est élue en Assemblée Générale. Donc il faut qu'elle corresponde, qu'elle fasse bien son travail. Et puis la répartition des excédents, s'il y a des bénéfices, c'est voté en Assemblée Générale. Souvent, dans les SCOP, on met 50% en réserve, impartageable, et puis on met 5% pour pérenniser la boîte, et puis 50% en participation aux bénéfices entre tous les salariés. C'est assez rare qu'on distribue des dividendes. Mais c'est possible aussi. C'est une boîte normale, en fait.
C'est une boîte normale. Et puis, vous l'évoquiez au début de notre entretien, c'est aussi dans les périodes de crise, dans les moments où il faut se serrer les coudes, le fait d'avoir une société coopérative, ça permet aux salariés de davantage s'impliquer.
Oui, bien sûr. Et c'est du coup, on le voit ça sur les chiffres au niveau national, sur la pérennité des entreprises à 5 ans. Quand une entreprise a été créée, 5 ans après, au niveau national, toutes les entreprises confondues, on est à 61% de taux de survie, on va dire. Sur 100 entreprises qui ont été créées il y a 5 ans, aujourd'hui, il y en a 61 qui survivent encore. Dans le mouvement des SCOP, on est à 12% de plus. On est à 73%. Donc en fait, il y a quelque chose quand même qui fait que on est moins sur des coûts financiers, à prendre des risques, et puis les gens se remontent plus les manches, c'est leur boîte.
C'est leur boîte. Est-ce que ces sociétés coopératives de production répondent aux besoins de sens au travail, de plus en plus exprimés, nous le savons, par toute personne qui travaille ?
Eh bien oui, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui aimeraient déjà que leur métier ait plus de sens. Donc alors déjà des scopes dans la vente d'armes ou dans les hydrocarbures, il n'y en a pas, bizarrement. Il y en a beaucoup plus aux soins à la personne, dans les énergies renouvelables. Enercop, par exemple, qui propose de l'énergie verte partout en Occitanie, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Il y a plein de boîtes comme ça qui sont. Et puis il y a faire partie d'un projet qui a du sens, faire un projet ensemble, puisqu'une SCOP on fait un projet ensemble, et puis participer aux décisions importantes. C'est pas participer à tout, je veux dire, on va pas tout décider tout le temps, mais les gens sont beaucoup plus impliqués, oui, c'est le cas.
Ça, c'est le cas. Vous pourriez nous donner un exemple, puisque vous êtes dans cette société coopérative Éthicable, qui fabrique, nous le savons, du très bon chocolat et que vous avez eu la gentillesse de nous offrir ce matin, qui nous fait de l'œil. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu, nous donner cet exemple de cet intérêt, de ce sens au travail qui a été trouvé dans votre entreprise ?
Alors, Éthicable, donc, on l'a créé il y a 20 ans. Donc, en plus d'être une SCOP, on fait du commerce équitable. Hein, donc, comme vous le connaissez, vous le savez. Et donc, le commerce équitable, c'est quoi ? C'est mettre l'être humain et son travail au centre des valeurs. Donc, le producteur dans les pays du Sud, c'est le mettre au centre des valeurs. Au lieu d'essayer de faire du profit sur son dos, c'est essayer de lui acheter à un juste prix et suffisamment durablement pour qu'il puisse se développer et puis vivre de son travail. Et donc, quand on avait ce projet-là, il y a 20 ans, on a découvert par hasard qu'il existait les scopes. On s'est dit, ben oui, mais là, ça a aussi du sens. Donc, on a décidé de créer la structure en scope. Donc, aujourd'hui, on est 160 salariés. Les gens sont contents parce qu'effectivement, ils travaillent dans quelque chose qui a du sens. On fait des produits bio et commerce équitable. Et en même temps, on est une vraie entreprise. On est devenu leader sur notre marché. On est la première marque en France de commerce équitable et la première marque de chocolat bio. Donc sur le marché français, tablettes de chocolat bio, Etikable réalise 30% du marché et est devenu leader. Donc comme quoi, même en faisant autrement, puisqu'on a fait ça sans publicité, on n'a jamais acheté de publicité chez Etikable, on utilise simplement nos produits pour expliquer ce qu'on fait. On est devenu, dans un marché concurrentiel, hein, comme la grande distribution, les supermarchés, on est devenu une marque, une vraie marque comme les autres. Et donc ça, c'est la fierté aussi des salariés d'Etikable.
Voilà. Et ça donne vraiment du sens. Alors là, à vous entendre, on pourrait dire, mais en fait, c'est vraiment idyllique, cette forme de société. Il y a quand même des limites. Par exemple, si les salariés ne sont pas d'accord sur une stratégie adoptée, comment faites-vous ?
Eh bien, on vote. Et s'ils ne sont pas d'accord, c'est que la stratégie n'est pas adoptée. Elle ne sera pas adoptée. Donc, du coup, le comité de direction va réfléchir. Est-ce qu'on est allé trop vite ? Est-ce qu'elle est bonne, notre stratégie ? Ils vont réfléchir à la modifier, etc. Nous, en général, on prend le temps quand même d'emmener. Enfin, nous, quand on a construit la chocolaterie pour relocaliser à Fleurance, dans le Gers, la fabrication de chocolat, c'était un projet de 15 millions d'euros. C'est pas sorti du chapeau comme ça. Tiens, on a un truc à vous proposer aujourd'hui. On a fait des études pendant plusieurs années, en impliquant des salariés dedans, qui ont bâti le projet de cette chocolaterie, en montrant que c'était rentable au bout d'un certain nombre d'années, etc. Et les salariés nous ont suivis là-dedans.
Donc en fait, c'est juste une question de temps ?
De temps, de communication, de partager l'information avec les salariés. Et c'est pour ça que l'Union Régionale des Scopes, par exemple, fait des formations pour que les salariés qui deviennent sociétaires d'une scope comprennent un peu plus le pilotage, les enjeux économiques de l'entreprise dans laquelle ils travaillent et où ils vont voter les grandes décisions. Donc ça, effectivement, mais il peut y avoir dans une scope, effectivement, une décision. Même le dirigeant, s'il ne fait pas son travail ou s'il n'est pas honnête, il peut se faire déboulonner à une assemblée générale et puis on va élire quelqu'un d'autre. Et si on n'a personne dans la boîte, on va recruter quelqu'un d'autre pour prendre ce poste.
D'accord. Et il n'y a pas d'autres inconvénients qui pourraient exister sur le fonctionnement d'une société coopérative ?
Alors, l'inconvénient majeur est celui du monde capitaliste qui n'a pas compris. Parce qu'en fait, nous, on est plus intelligents dans les scopes parce qu'on a compris un truc important, c'est que le profit, c'est pas un but, c'est un moyen. Mais ce monde capitaliste qui est un petit peu en retard, lui, il croit que le profit, c'est un but. Donc pour eux, comme le but, c'est de faire du profit, c'est de revendre la boîte qu'ils auront créée, eh ben ça, c'est un gros inconvénient parce qu'une scope, on peut pas la revendre, justement. Justement, c'est un outil qu'on va pérenniser. Et donc, voilà. Mais en vrai, moi, c'est le seul inconvénient que je vois. Et je pense que si notre monde était beaucoup plus basé sur l'être humain, son travail, etc., sur l'avenir, sur la pérennité des choses, au lieu d'être basé sur un profit à court terme, eh ben, je crois qu'on serait moins dans une catastrophe écologique dans laquelle nous allons, dans un mal-être social aujourd'hui que nous traversons en France, où les gens manquent de sens, ils ont l'impression d'être exploités pour travailler pour des fonds d'investissement. Il y a des grosses boîtes qui appartiennent à des gens qui n'y travaillent même pas et qui se servent de la boîte comme une pompe à fric. Est-ce que c'est ça la vraie vie ? Est-ce que c'est ça est-ce que c'est normal, ça ? Il faudrait le remettre en question, quand même, ce modèle économique. Donc, voilà. Moi, c'est le seul inconvénient que je vois. Parce qu'après, ces gens-là vont dire « Oui, de toute façon, dans les scopes, tout le monde décide de tout. » C'est pas vrai. Je viens de vous l'expliquer. On va décider des grandes décisions, mais pas de chaque décision. Et puis, ces gens-là vont dire « Oui, de toute façon, c'est pas possible de trouver des financements dans les scopes. » C'est pas vrai. Nous, quand on a créé notre chocolaterie, on a levé 15 millions d'euros en 15 jours. Hein, parce que quand vous êtes... bien en bonne santé, riche et en bonne santé, vous savez, les banquiers, ils vous suivent, hein, c'est ça. Voilà. Donc nous, comme on était une boîte qui sommes en croissance, qui faisons des bénéfices, et tous les banquiers nous ont suivis, qu'on soit une scope ou pas. Donc voilà, seul inconvénient, c'est qu'il faut changer le modèle et arrêter de chercher uniquement le profit, mais chercher la vie.
Chercher la vie, arrêter le profit, en fait, c'est un peu ce qui fait écho à la doctrine sociale de l'Église sur la vie économique. Pour terminer, Rémy Roux, dans quel secteur économique les scopes se développent-elles le plus, et notamment dans notre région ?
Alors, beaucoup plus. C'est vrai qu'il y a une quarantaine d'années, c'était beaucoup dans le BTP. Il y avait beaucoup de scope dans la construction. Aujourd'hui, c'est pas mal dans le tertiaire. Là, dans les transmissions d'entreprise, il y a eu en 2023 une entreprise, un cabinet de chasseurs de tête, par exemple, et puis une entreprise d'intérim. Donc, vous voyez, là, c'est en train de se développer dans ces...
Dans les services aussi.
Voilà, ça va dépendre un petit peu des différents... des périodes, quoi, de l'économie. Mais c'est possible dans tous les métiers, sauf dans les ventes d'armes. Parce que nous, l'URSCOP, on n'aidera pas à un projet comme ça.
Voilà, merci beaucoup Rémi Roux, président de l'URSCOP, l'Union Régionale des SCOP Occitanie-Pyrénées, d'être venu ce matin au micro de Radio Présence.
Merci.